Chapitre 9. En arrivant à sa voiture, Tony eut tout d'un coup envie d'épier Fiona Richards. L'ex-épouse de Richards n'avait pas appelé Phil, et quand il lui avait téléphoné, elle avait prétendu qu'elle était trop occupée. Peut-être qu'Amy Richards avait dit quelque chose à son mari et que ce dernier l'avait répété à Fiona. Peut-être qu'il avait trop peur qu'il lui arrive malheur pour communiquer des informations à la police. Tony enfonça une casquette sur sa tête et chaussa des lunettes de soleil. Certaine qu'elle passait pour une ado quelconque, elle se mit en route pour la maison de Fiona Richards. La voiture de Fiona n'étant pas là, Tony se dirigea vers le centre-ville. L'ancienne Mrs. Richards était peut-être allée faire des courses. C'était jour de marché. Tony parcourut les étals. Comme il était bientôt midi, elle alla voir au George à tout hasard et reconnut la voiture de Fiona sur le parking privé de l'hôtel. Elle décida de s'asseoir dans le hall en prétextant qu'elle attendait quelqu'un. Barricadée derrière un journal, elle lançait de temps à autre un regard aux personnes entrant dans l'hôtel. Tandis qu'elle attendait, elle se rendit compte avec étonnement qu'elle n'éprouvait plus rien pour Simon. Il n'avait été qu'un rêve. Sans l'intervention d'Agatha, ce rêve serait mort de sa belle mort. « Excusez-moi, vous êtes Tony Gilmore ?» Tony baissa son journal. Un homme se tenait debout devant elle et lui souriait. Elle remarqua qu'il portait des vêtements très coûteux et qu'il était impeccablement coiffé et rasé. Il sentait légèrement l'eau de Cologne. Son visage large était agréable, et bien qu'il soit corpulent, il avait l'air vigoureux. Ses yeux marrons étaient mouchetés d'or. « Je suis Tony Gilmore, oui ?» répondit-elle, en se faisant la réflexion que sa casquette et ses lunettes de soleil composaient en fin de compte un piètre déguisement. L'inconnu s'assit à côté d'elle. C'est vraiment culotté de ma part de vous aborder comme ça. Je voulais votre avis. En fait, c'est Mrs. Raisin que je souhaite rencontrer. Voici ma carte. Je suis Peter Powell, agent immobilier.
Et qu'est-ce que vous lui voulez à Mrs. Raisin ? Demanda Tony d'un air soupçonneux.
Eh bien voilà. J'ai un client qui cherche un cottage dans les Cotswolds. Nous roulions tous les deux d'un village à un autre et nous avons atterri à Carsley. Il est tombé amoureux du cottage de Mrs. Raisin.
Bizarre qu'il ait repéré justement celui-là. Il est dans un cul-de-sac.
Il l'a remarqué depuis l'entrée de Lilac Lane. Nous avons poussé jusqu'au bout. Il tient absolument à la voir.
Agatha ne vendra pas, vous pouvez me croire.
Ah, mais attendez de savoir ce qu'il en offre.
Qui est cet homme?
Pour le moment, il préfère rester anonyme.
Monsieur?
Peter. Appelez-moi Peter.
Va pour Peter. En tant que détective privé, Agatha Raisin a récemment été mêlée à deux meurtres particulièrement macabres. Elle se montrera extrêmement méfiante, comme moi, à l'égard de ce mystérieux acheteur. D'ailleurs, je vais être obligée de signaler à la police l'intérêt que vous lui portez.
Vous pouvez vous renseigner sur moi quand vous voulez. Je suis connue dans ma branche, j'ai bonne réputation.
Alors je pense que la police sera plus intéressée par votre client. Essayez de comprendre. Un acheteur potentiel s'attendra à avoir accès à la maison, non ?
Oui, bien sûr.
Donc, la police voudra naturellement savoir qui s'y intéresse et pourquoi.
C'est compréhensible. Faites donc.
Après le départ de l'agent, Tony traversa le hall de l'hôtel pour jeter un coup d'œil dans la salle de restaurant. Aucune trace de Fiona. Elle prit le risque de demander à la réception s'il y avait une Mrs. Fiona Richards à l'hôtel et apprit avec consternation qu'elle était partie. Sans doute pendant que je discutais avec cet agent immobilier, pensa Tony. Je me méfie de tout et de tout le monde. Cet agent existe-t-il vraiment ? Alors qu'elle traversait la place pour se rendre au commissariat, elle aperçut justement Bill Wong qui montait en voiture. Elle l'appela, mais décida qu'il valait mieux ne pas lui avouer qu'elle surveillait Fiona, puisqu'on leur avait déconseillé à tous de le faire. Elle lui parla de l'agent immobilier et de l'acquéreur potentiel du cottage d'Agatha.
« Il vaut mieux que je me renseigne, » dit Bill. « Laisse-moi faire. Après tout, pourquoi l'agent immobilier t'a-t-il abordé toi ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas téléphoné directement à Agatha ?»
Tony appela ensuite Agatha pour lui faire un rapport.
« Où étiez-vous quand cet homme vous a accosté ?» demanda Agatha.
« Je ne l'ai pas dit à Bill, mais j'avais vu par hasard la voiture de Fiona garée au George, alors j'attendais à la réception. Puis cet agent m'a distraite et à son départ, elle était repartie aussi. »
« Tony, » répliqua Agatha d'une voix que l'inquiétude rendait cassante, « vous ne devez en aucun cas vous mêler de ces meurtres, c'est trop dangereux. Vous avez une affaire de divorce en cours, alors au boulot !»
Après avoir quitté Tony, Bill retourna au commissariat, tapa un bref rapport sur l'agent immobilier et le donna à Wilkes.
Je vois qu'il fait partie de l'agence Powell, Slery et Card, constata l'inspecteur principal.
J'ai vu leur panneau à vendre. Allez les voir, demandez à lui parler et insister pour obtenir le nom de son client. »
Les locaux de l'agence se situaient dans la glèbe, une des ruelles médiévales sinueuses entourant l'abbaye. Bill demanda à Mr. Powell. Une jeune femme disparut dans un bureau à l'arrière, puis lui fit signe d'entrer à son tour. Powell se leva derrière son bureau et tendit sa grande main à Bill.
« Que me vaut l'honneur d'une visite de la police ?» demanda-t-il.
« Nous nous intéressons à votre client qui souhaite acheter le cottage d'Agatha Raisin. Puis-je avoir son nom, s'il vous plaît ?»«
Nous ne divulguons jamais de nom, à moins d'y avoir été autorisé. »
« Voyons, soyez raisonnable. Vous voulez que j'obtienne un mandat et que je fasse éplucher tous vos dossiers ?»«
Vous voulez bien sortir pendant que je l'appelle ?» Question de courtoisie.
Bill attendit avec impatience, conscient qu'il avait peu de chances d'obtenir un mandat en l'absence d'indices sérieux d'activité criminelle. Powell sortit de son bureau et lui tendit un bout de papier.
« Il s'appelle Bogdan Stajkov. Il est en ce moment même au Georges. »«
Quelle nationalité ?
Il faudra le lui demander vous-même !» répondit Powell avec un sourire.
Au Georges, on informa Bill que Mr. Stajkov prenait le café sur la terrasse. Il traversa l'hôtel pour se rendre sur la terrasse qui donnait sur les jardins. Persuadé qu'il repérerait immédiatement l'étranger, il n'avait pas demandé qu'on le conduise à lui. Mais il y avait pas mal de fumeurs, savourant leur café dehors, et ils faisaient tous très british. Comme il hésitait sur le pas de la porte, un homme petit aux cheveux argentés se leva et lui fit signe de le rejoindre.
« Mr. Powell m'a dit que vous me cherchiez, » dit-il avec une pointe d'accent.
Ses yeux, comme ceux de Bill, étaient légèrement bridés, mais aussi gris et froids que la mer du Nord. Il portait un costume léger, couleur crème, sur une chemise bleue et une cravate en soie rayée. Il avait une épaisse peau grisâtre, une petite bouche et un petit nez de curieuses oreilles pointues.
« Asseyez-vous, je vous prie. Café ?»«
Non, merci. Pourquoi vous intéressez-vous au cottage de Mrs. Raisin ?»«
De quoi est-ce que vous parlez ? J'ai vu beaucoup de propriétés. »
Le cottage de Mrs. Raisin se trouve dans Lyle Klein, à Carsley.
Ah oui, Carsley, il m'a plu, je cherche un nouveau logement pour ma fille. C'est si typiquement anglais. En quoi est-ce que cela concerne la police?
Bill lui expliqua la situation. Stajkov leva ses mains manucurées avec consternation.
Je l'ignorais. Je ne lis pas les journaux, je suis à la retraite. C'est mon fils qui dirige l'entreprise maintenant. J'aspire à une paisible vie anglaise.
De quelle nationalité êtes-vous?
Je suis originaire de Bulgarie, mais j'ai épousé une Britannique et cela fait une vingtaine d'années que je suis installée ici.
Et dans quel secteur étiez-vous?
Habillement, din, cuir, ce genre de choses. C'est mon fils qui dirige l'entreprise maintenant, Country Fashions. Nos locaux se trouvent dans la zone industrielle.
Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que j'y jette un coup d'œil? Demanda Bill.
Allez-y.
Fit l'autre avec un haussement d'épaule.
« Vous autres Britanniques, dès que vous entendez le mot bulgare, vous pensez mafia. »
Tony avait entendu que Bill sorte du commissariat, puis l'avait suivi jusqu'à l'agence immobilière et ensuite à l'hôtel. Une fois de plus, elle entra au Georges. Il ne restait plus qu'un couple dans la salle de restaurant, mais comme elle entendait des voix sur la terrasse, elle s'approcha pour y jeter un coup d'œil et vit Bill en conversation avec un homme aux cheveux argentés. Elle trouva un siège dans le hall, à moitié masqué par une monstera, et attendit. Bill ne tarda pas à sortir, imité 10 minutes plus tard, par l'homme auquel il avait parlé. Tony lui emboîta le pas, mais l'inconnu monta dans une Mercedes conduite par un chauffeur. Elle regretta de ne pas avoir pris sa voiture. Elle retourna donc à la réception et elle se demandait si elle allait se faire passer pour une journaliste quand la réceptionniste lui dit
« Que puis-je pour vous, Miss Gilmore ?»
Ah, cette manie qu'avait Agatha de faire paraître leurs photos dans les journaux et à la télévision, pesta intérieurement Tony.
Je me demandais juste qui était le monsieur qui vient de sortir.
Oh, vous devez parler de Mr. Stajkov.
Il travaille dans le cinéma?
L'habillement. La réceptionniste se tourna pour s'occuper de quelqu'un d'autre. Tony se rendit aux locaux du Merchester Mercury, où elle savait qu'un vieux camarade d'école, John Worthing, travaillait comme reporter. John, un jeune homme aux cheveux châtains, fatigué et aux airs de hibou, fut enchanté de la voir. À l'école, il avait été harcelé par les autres élèves jusqu'à ce que la coriace et populaire Tony le prenne sous son aile.
Ça fait une éternité que je ne t'ai pas vu. Chaque fois qu'il y a un sujet sur toi, c'est le reporter en chef qui s'en charge.
Je viens te demander un service.
tout ce que tu voudras.
Est-ce que tu pourrais rechercher dans vos fichiers des infos sur un certain Stajkov?
Bien sûr.
Dis donc, tu parles avec un accent vachement distingué maintenant.
Ce n'est pas distingué, c'est neutre. Allez, grouille-toi, tu seras un amour.
Attends que je fasse chauffer l'ordi.
Vous avez le haut débit, non?
Sur le réseau de la ville?
Tony sourit avec compassion. On racontait que la connexion Internet de Mercer était la plus lente du Gloucestershire.
Au bout d'un moment, John poussa un petit cri de triomphe.
Le voilà! On a fait un article l'an dernier quand il a pris sa retraite. Il a une société d'habillement sur la zone industrielle, originaire de Bulgarie, importe surtout du cuir, self-made man, arrivé ici plutôt fauché, il a fait fortune.
Et comment est-ce qu'il a obtenu la nationalité britannique?
Il a épousé une Anglaise. Elle est morte il y a 4 ans.
Et de quoi elle est morte?
Minute, dit John en cliquant sans s'arrêter. Ah voilà, une chute dans les escaliers.
Sans blague, s'étonna Tony avec un frisson d'excitation. Tu as le rapport d'enquête?
Le voilà. Verdict accident. Le légiste affirme qu'elle était ronde comme une queue de pelle.
Comment s'appelle cette société d'habillement?
Country Fashions.
Merci beaucoup.
Tony, attends, tu crois qu'on pourrait se voir un soir?
Il l'implorait du regard, et l'image de John plus jeune pleurant dans un coin de la cour de récré lui revint brusquement en mémoire.
Je suis très occupée, répondit-elle avec diplomatie, mais en voyant le visage de son ami se décomposer, elle s'empressa d'ajouter.
Voilà ce que je vais faire. Donne-moi ta carte, si j'ai une grosse affaire, tu seras le premier informé.
Ce serait super. C'est vrai, tous les autres sont sur le terrain pour couvrir tel ou tel sujet, et moi je reste ici pour éditer le courrier des lecteurs.
Dehors, Tony appela Agatha qui lui dit précipitamment.
Je suis au bureau, venez vite, je veux que vous me racontiez tout par le menu.
Quand Tony eut fini son rapport, les yeux d'Agatha brillaient d'excitation.
Je savais qu'il y avait un gang là-dessous. Ça doit être la mafia, j'aimerais bien pénétrer dans cette fabrique de vêtements.
À mon avis, c'est infaisable. De toute façon, je suis sûre que c'est la première chose à laquelle Bill aura pensé.
Patrick Mulligan entra dans le bureau à cet instant. Grand, la mine lugubre et portant les chaussures les plus luisantes de tout Mercer, il avait tout du flic retraité qu'il était. Quand Agatha lui eut rondement résumé les découvertes de Tony, il enchaîna.
Il y a un café sur la zone industrielle. Enfin, c'est juste une cabane avec des tables dehors. Je vais y aller voir si je peux entrer en contact avec des employés de la société.
Après son départ, Tony s'inquiéta.
On n'était pas censé enquêter sur ces meurtres. Est-ce que ce n'est pas un peu dangereux?
Non, à moins que ce Bulgare y soit mêlé, répondit Agatha.
Mais vous ne voyez pas que nous ne serons jamais en sécurité tant que nous n'aurons pas élucidé ces assassinats?
Patrick rentra chez lui et changea son costume cravate et ses chaussures astiquées contre une tenue décontractée, des chaussures de bateau éraflées et une casquette. C'était une splendide journée de juin. Comme il sentait qu'il avait besoin d'exercice, il décida de se rendre à la zone industrielle à vélo. Les Anglais n'étant pas trop habitués aux beaux étés, la chaleur semblait avoir pris beaucoup de gens par surprise. Patrick voyait des hommes et des femmes portant des blousons et des manteaux. Arrivé à destination, il appuya son vélo sur le côté du café, puis il se rendit compte qu'il n'avait pas déjeuné, alors il commanda un hamburger, des frites et du thé. L'homme et la femme qui tenaient le café bavardaient en polonais. Il y avait des Polonais partout dans le Gloucestershire. Le coup de feu de midi était passé. Il choisit une table d'où il aurait une bonne vue sur l'entrée de Country Fashions. Il vit Bill Wong et Alice Peterson sortir du bâtiment, monter dans leur véhicule banalisé et démarrer. Quand ils ralentirent devant le café, il baissa brusquement la visière de sa casquette et détourna le visage, puis il poussa un soupir de soulagement lorsque la voiture s'éloigna sur un coup d'accélérateur. On lui servit sa commande. Le thé, bien chaud, était fraîchement infusé. Le hamburger était bon, et à son grand étonnement, les frites étaient de vraies frites faites maison, et non surgelées. Tout à coup, il aurait aimé pouvoir rester assis là, à se détendre au soleil, sans se soucier de ses enquêtes. Mais que ferait-il s'il prenait sa retraite? Il n'avait pas de passe-temps. Peut-être que Phil et lui pourraient prendre leur retraite ensemble et se mettre au golf. Il finit tout de même par décider, à contre-cœur, de se mettre au boulot et d'inspecter la fabrique de plus près. Un camion arriva et fit le tour du bâtiment par derrière. Patrick régla son addition, reprit son vélo et le poussa dans la direction prise par le camion. Des hommes déchargeaient des pots de l'arrière du poids lourd.
« Qu'est-ce que vous faites là ?»
demanda quelqu'un d'une voix cassante. Patrick fit volte-face et se retrouva face à un homme en tenue de vigile.
Heureusement, il avait lu attentivement la liste des entreprises de la zone industrielle sur un panneau à l'entrée.
« J'ai l'impression que je me suis perdu, » répondit-il. « J'ai besoin d'une pompe pour l'étendre mon jardin. »
« Alors c'est à Aquaia Plus qu'il faut aller, parcelle 11 là-bas. »
Patrick enfourcha son vélo et partit. Comme il vivait en appartement, il n'avait pas de jardin, mais c'était un homme prudent et son instinct le poussa à rouler jusqu'à Aquaria Plus et à entrer dans le magasin. Tout en examinant un assortiment de pompes, il regarda dehors. Le vigile était là. Il discuta avec un vendeur et lorsqu'il regarda à nouveau, le vigile était parti. Il attendit encore quelques minutes, puis il déclara d'un air contrit qu'il allait devoir consulter la patronne. D'un coup de vélo, il retourna au café où il commanda un thé et un donut en s'asseyant cette fois dos à la fabrique. Le vigile faisait peut-être simplement du zèle. Tout de même, ça méritait d'être rapporté. Tôt ce soir-là, Charles Fraisse fouillait dans ses poches à la recherche des clés d'Agatha quand une main s'abattit lourdement sur son épaule.
« Qu'est-ce que vous faites ?»
entendit-il dire avec un accent écossais. Il fit volte-face. Un brigadier se tenait là, le fixant d'un regard furieux.
« Je suis un ami de Mrs. Reza, » répondit-il avec humeur. « En général, j'ai les clés de son cottage, mais j'avais oublié qu'elles m'avaient été volées. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici ?»« Brigadier Tulloch, j'obéis aux ordres. Un agent va bientôt venir me relayer. »«
Qu'est-ce qu'elle a encore fabriqué ?» demanda Charles en appuyant sur la sonnette. La porte lui fut ouverte par Agatha.
« C'est bon, brigadier, » dit-elle. « Entre, Charles. Est-ce que vous voulez une tasse de thé, brigadier ?»«
Merci, madame, ce serait super. Fait encore chaud dehors. »« Tu aurais pu me donner un nouveau jeu de clés, » se plaignit Charles en suivant Agatha dans la cuisine.
« Je savoure l'idée de ne pas te trouver installée chez moi quand j'arrive. Attends que je fasse son thé aux flics dehors et je te raconterai tout. »
Elle prépara une théière, la disposa sur un plateau avec du lait, du sucre et une assiette de biscuits, puis la porta dehors. Elle sortit ensuite une chaise pliante et invita le policier à s'installer confortablement. Après quoi, elle alla retrouver Charles et lui parla de l'homme qui s'intéressait à son cottage et de Country Fashions.
Alors Bill a décidé de me mettre sous protection policière, conclut-elle. J'aimerais beaucoup m'introduire dans cette fabrique.
« Et James, les entrées par effraction, je le connais. »
Il est parti je ne sais où en laissant ses clés à Mrs. Blugsby. Il n'a même pas eu la correction de me dire où il allait.
« Il écrit des récits de voyage. Il faut qu'il voyage, Aggie. »«
Ne m'appelle pas Aggie. »«
Des nouvelles de Roy ?»«
J'ai bien essayé de lui parler au téléphone, » répondit Agatha avec un soupir. « Mais il a hurlé, « C'est trop dangereux. Il nous écoute peut-être. » Et il a raccroché.
Il a subi une rude épreuve et il est un peu poule mouillée.
Alors tu penses que ce sont peut-être les Bulgares qui ont fait le coup?
Après l'expérience de Patrick ce midi, je ne les trouve pas très catholiques.
Peut-être que je pourrais me déguiser et obtenir un boulot dans leurs ateliers?
Toi? Une bonne part de leurs marchandises est cousue main. J'ai acheté une veste de chez eux. Remarque, ils font des polaires et tutti quanti.
Tu sais te servir d'une machine à coudre?
Non, bien sûr, laisse tomber.
Je ne peux pas y envoyer Tony, c'est trop dangereux.
J'ai vu Simon l'autre jour. Le mariage a lieu demain. Tu y vas?
Si seulement il pouvait quitter l'armée, répondit Agatha en rougissant d'un air malheureux. Ça me serait égal. J'imagine qu'il vaut mieux que j'y aille.
Est-ce qu'il a repris contact avec Tony?
Oh, j'espère que tout ça est fini. Elle n'a pas l'air d'avoir le cœur brisé.
Et Patrick, est-ce qu'il arrive à soutirer des infos à la police?
De ce côté-là, on dirait que c'est motus et bouche cousue, même s'il dit que c'est sans doute parce que l'enquête piétine et que ses contacts n'ont rien à lui dire. Attends un peu. Je me demande si le briquetier qui monte la garde n'aurait pas des petites infos à nous donner. Je vais voir s'il veut encore du thé.
Bientôt, Charles entendit faiblement la voix d'Agatha.
Eh, réveillez-vous! Vous êtes censé monter la garde!
Puis ce fut un cri. Charles! Il courut la rejoindre.
Tulloch était affalé sur sa chaise, les yeux fermés. Il tâta le pouls du policier et poussa un soupir de soulagement.
« Il n'est pas mort. On a dû mettre quelque chose dans son thé. J'appelle la police et une ambulance.
« Dépêche-toi !» s'écria Agatha en jetant autour d'elle des regards affolés. « S'il est seulement drogué, ça veut dire que quelqu'un voulait entrer dans la maison. Rentrons et fermons la porte. »
« On ne peut pas le laisser griller au soleil. Apporte-moi un parapluie, je le tiendrai au-dessus de lui. Appelle la police, toi. » « Allez, fais quelque chose, ne reste pas planté là comme une bécasse !»
Une heure plus tard, Mrs. Blugsby ouvrit la porte du presbytère à une délégation de la Société des Dames de Carsley, dont Mrs. Ada Benson s'était manifestement auto-proclamée la porte-parole.
« Nous venons vous voir, » clama-t-elle d'une voix tonitruante, « pour nous plaindre du chaos qu'Agatha Raisin a semé dans le village. La plupart d'entre nous se sont retirés ici pour mener une vie paisible. »«
Que s'est-il passé ?» demanda l'épouse du pasteur.
Un policier de garde devant son cottage a été retrouvé inconscient. Elle a semé la terreur dans le village. Il faut lui demander de partir.
Pauvre Mrs. Raisin, s'exclama Mrs. Blugsby. Il faut que j'aille la voir tout de suite.
Et vous allez lui demander de s'en aller?
Mrs. Blugsby se fraya un passage à travers le groupe de femmes et répondit par-dessus son épaule. « Sans le travail de détective exceptionnel accompli par Mrs. Raisin dans le passé, vous trouveriez vraiment ce village terrifiant. Ne soyez pas stupide, Mrs. Benson. »«
Je démissionne de la Société des Dames !»
cria Mrs. Benson. La voix de Mrs. Blugsby flotta jusqu'à elle depuis le coin de la rue.
« Tant mieux !»
Le cottage d'Agatha grouillait d'activité. Des voitures de police bloquaient l'Isle Glen et des hommes en combinaison blanche pulvérisaient de la poudre pour révéler les empreintes digitales sur la porte d'entrée. Un agent de police informa spontanément Mrs. Blugsby qu'Agatha et son amie s'étaient rendues au pub. L'épouse du pasteur les trouva dans le jardin de l'établissement. Agatha fumait avec acharnement, une cartouche de Benson achetée à l'épicerie du village devant elle. Charles expliqua ce qui s'était passé, puis Agatha enchaîna.
« Je suis le suspect numéro un. C'est moi qui lui ai apporté le thé. Personne n'a vu âme qui vive devant mon cottage. Miss Sims, la secrétaire de la Société des Dames, eh bien son dernier petit ami en date lui a offert un sale petit cabot qui n'arrête pas de japper. Elle l'a promené dans l'Isle Glen, a crié « Bonjour à Tullock », elle a marché jusqu'au bout où commencent les chants, elle a fait demi-tour et vu Tullock qui s'était endormi. Du moins, c'est ce qu'elle a pensé. » Elle n'a croisé personne, ni à l'aller, ni au retour. Alors me voilà assise là, un vrai paquet de nerfs, à boire du gin et à fumer cigarette sur cigarette. Je suis censée me rendre au commissariat avec Charles pour faire une déposition. Mais je leur ai dit que j'avais d'abord besoin de me changer un peu les idées. Et vous savez ce que ces salauds m'ont fait? Ils m'ont confisqué mon passeport. Chaque fois qu'ils ne savent pas quoi faire de moi, ils me prennent mon passeport. Et en général, il faut que j'engage un avocat pour le récupérer.
Ils ne peuvent tout de même pas penser que vous êtes mêlée à ça. Est-ce que vous voulez que je vous accompagne?
C'est gentil à vous, mais ils vont vouloir interroger Charles aussi. Alors autant que nous souffrions ensemble.
Mrs. Blugsby regagna le presbytère toute songeuse. Elle s'assit à son ordinateur et commença à taper l'avis suivant. Du presbytère. Les réunions de la Société des Dames ne se tiendront plus au presbytère. Si vous désirez continuer, il faudra trouver un autre lieu. Je démissionne, Margaret Blugsby. « Je ne vais pas arpenter les rues par cette chaleur pour fourrer des courriers dans les boîtes aux lettres, » se dit-elle. « Je vais aller afficher mon annonce sur le panneau de l'épicerie. » Elle était en train d'enfoncer les punaises quand Miss Sims la rejoignit.
« Moi, si vous êtes plus là, je donne aussi ma démission. »
Miss Sims était toujours affublée du titre accablant de « mère célibataire de Carsley », ce que Mrs. Blugsby trouvait indéniablement injuste, dans la mesure où le célibat semblait être en plein essor chez les mères. De jeunes femmes de Mercer tombaient enceintes parce qu'elles savaient que la ville leur accorderait un logement et des allocations. C'était souvent un moyen d'échapper à des parents violents, quand ce n'était pas par pure fainéantise.
« C'est pas comme s'il y avait encore des dames, si vous voyez ce que je veux dire !» poursuivit Miss Sims. « Il n'y a plus que des nouvelles à la pousse-toi de là que je m'y mette, comme Mrs. Benson. Elles vont et elles viennent. Les prix des maisons augmentent, elles vendent, et il y en a d'autres qui arrivent. » Elles veulent vivre leur rêve de vie de village. Alors elles adhèrent à la Société des Dames et on reste toutes là à manger des petits fours en cassant du sucre sur le dos des autres. Oh mince alors, je suis désolée.
Le petit chien de Miss Sims avait fait pipi sur les chaussures de l'épouse du pasteur.
On dit que ça porte chance,
la rassura Mrs. Blugsby avant d'essuyer ses chevilles et ses chaussures avec l'essuie-tout que lui tendait Mrs. Tuchel l'épicière.
« Vous êtes sûr qu'il n'y avait personne dans ou autour de l'Isle Glen quand vous y avez promené votre chien ?»«
Je le jure. J'ai eu envie d'inventer quelqu'un, juste pour aider Mrs. Raisin, mais seulement après coup, je ne savais pas qu'elle aurait des ennuis. » »«
Ils ne peuvent tout de même pas penser qu'elle serait assez folle pour droguer le thé de ce brigadier. »«
Peut-être que quelqu'un est venu en cachette et qu'il a mis quelque chose dans la boîte à thé. » »«
Mrs. Raisin utilise des sachets. » »«
Bon. » Et la société de sécurité qui a changé les serrures et tout et tout.
La police s'est renseignée de façon approfondie sur son compte.
Oh, après tout, elle est coriace. Elle ne se laissera pas faire par la police.
Alors, la société des dames, c'est fini?
En ce qui me concerne, en tout cas.
Quel nom désuet.
J'ai entendu dire qu'à Hancombe, la société des dames a changé de nom.
Oui, elles se sont rebaptisées En avant les femmes.
Il vaut mieux que je rentre avec mon petit toutou.
C'est un chihuahua, il me semble.
Ah oui, fait Miss Sims avec un petit rire.
C'est rigolo, ça. C'est justement comme ça qu'un de mes petits amis m'appelle.
La voix de Miss Sims vacilla sous le regard clair de l'épouse du pasteur.
Faut que je file.
Tu veux que je dorme chez toi cette nuit ?
Demanda Charles, lorsqu'Agatha et lui ressortirent enfin du commissariat dans le jour déclinant.
« Oui, merci, » répondit Agatha.
« Il vaut mieux que je passe d'abord chez moi récupérer mes fringues pour demain. »«
Pour demain ?»«
Pour le mariage de Simon. »«
Nom d'un salopard à sonnette. Il faut que je trouve quelque chose à me mettre. »«
Quand tu auras trouvé, va m'attendre à l'agence. On rentrera chez toi ensemble. »«
Merci. »
Une larme roula sur la joue d'Agatha.
« Allons, ma vieille, ça ne te ressemble pas. Où est passé ton flegme caractéristique ?»«
Il a pris la poudre d'escampette, » répondit Agatha en se tamponnant les yeux avec un mouchoir tout froissé.
« Je me demande quelle drogue a été administrée à Tullock et comment elle est arrivée dans son thé. »«
Les analyses médico-légales, tels les moulins de Dieu, broient lentement. On ne le saura pas avant un moment. »
Arrivée dans son bureau, Agatha reçut un appel de sa femme de ménage, Doris Simpson, qui lui disait qu'elle avait emporté ses chats chez elle.
« Des hommes en combinaison blanche dans toute la maison !» expliqua Doris. « Et vos minous auraient pu se faire écraser avec tous ces policiers en grosses chaussures !»
Agatha la remercia. Comment diable avait-elle pu oublier le bien-être de ses chats ? Elle s'installa devant une pile de dossiers traitant des deux assassinats et entreprit de les lire d'un bout à l'autre à la recherche d'indices. Fiona Richards se trouvait au George au même moment que Stoïkov.
S'agissait-il d'une pure coïncidence?
Phil avait laissé un mot pour l'informer qu'il surveillait la maison des Richards, mais qu'il avait bien pris soin qu'on ne puisse pas le reconnaître.
« Si j'arrivais à élucider l'assassinat de Beach, songea-t-elle, peut-être que tout le reste deviendrait clair.
C'était un meurtre particulièrement cruel.
Pourquoi?
Vengeance? Haine? Avertissement? Et comment Beach avait-il bien pu être utile à un gang, sinon en fermant l'œil sur des excès de vitesse ou des infractions de stationnement?
Patrick se rendit dans un supermarché Richards à Mercer et commença à en faire le tour. C'était un de ces hypermarchés qui tuaient les petits commerces du centre-ville, parce qu'on y trouvait de tout, de l'alimentaire à la vaisselle en passant par l'habillement et les plats emportés. Il se rappela qu'il avait besoin d'une nouvelle chemise pour le mariage de Simon, alors il se dirigea vers le rayon textile. En tête de rayon, une affiche annonçait « Vous ne trouverez pas moins cher, veste en cuir à prix doux ».
« Je me demande, » marmonna Patrick.
Il décrocha une veste et examina l'étiquette. Le vêtement ne portait pas la marque Country Fashions. Sur la petite étiquette, il était simplement écrit « Richards ».
Ce n'était pas du cuir de bonne qualité, mais un de ces cuirs qui ressemblent un peu à du plastique, rigide et très dur.
Pouvait-il y avoir un lien avec l'entreprise de Stoïkov ?